France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et notre première invitée vient de nous rejoindre dans ce studio. Il est la nouvelle voix de Force Ouvrière, troisième syndicat du pays, qui fête ses 70 ans. Le syndicat, pas lui, même pas Quinca. Il succède à Jean-Claude Mailly, à la tête d'une organisation que l'on dit divisée. SNCF, hôpitaux, pauvreté, où en est-on? Que veut-on? Bonjour à vous. Comment allez-vous?
Bonjour, Pascal Fabajou. Merci.
L'année scolaire se termine. Demain, les premiers départs en vacances, les grandes vacances. Ça veut dire 1 million de voyageurs attendus dans les gares. On reproche toujours aux trains de ne pas arriver à l'heure. Mais là, la question, c'est plutôt, vont-ils tous partir? Et vont-ils tous partir à l'heure ou partir tout court? Ou est-ce que les départs vont se faire dans la douleur? Est-ce que vous avez la réponse à cette question?
Je n'ai pas la réponse, mais on peut voir que globalement, effectivement, le mouvement est réduit. Le mouvement de grève, puisque c'est celui auquel vous faites allusion. La question fondamentale, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les cheminots sont encore obligés d'être en mobilisation et en action. Ils le sont parce que on leur a cassé, détruit dogmatiquement, idéologiquement leur cadre d'emploi, c'est-à-dire leur statut. 127 000 personnes sont, tout nues, sont à poil, sont sans cadre collectif parce que un gouvernement, encore une fois de façon idéologique, a détruit leur statut sans rien leur proposer en contrepartie, en renvoyant à une hypothétique négociation que désormais le patronat de la branche finalement refuse de mettre en place. Donc il y avait une opposition, il y a toujours une opposition sur le principe de l'ouverture à la concurrence, mais c'est pas nouveau. Je dirais que ça fait 10 ans que ça dure et que globalement nous considérons que l'ouverture, ils considèrent et nous les soutenons que l'ouverture à la concurrence est une erreur et ne va conduire finalement qu'à une augmentation des coûts et à une baisse du niveau de service. Bon, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Mais là, c'est plus grave. Ce qui s'est passé depuis 2 mois, c'est qu'on a utilisé, le gouvernement a utilisé cette ouverture à la concurrence, encore une fois imposée par Bruxelles depuis des années, pour casser le statut des 127 000 personnes. Ce qui conduit aujourd'hui à ce que le statut est détruit, mais il n'y a pas de convention collective, je dirais, en contrepartie. Et le patronat refuse de négocier.
Mais il y en aura forcément une.
Mais des queues de cerises. Puisqu'on voit bien que le patronat, le gouvernement a été obligé de faire venir le patronat pour ouvrir la première discussion en matière de négociation. Et la première phrase du patronat, c'est de dire on n'est pas là pour négocier, on est là pour appliquer la loi, c'est-à-dire la destruction du statut. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont orphelins de leur cadre d'emploi, qu'on a déshabillé et auquel on dit finalement ne bougez pas, ne dites rien. Ben, paradoxalement, après 2 mois de mobilisation, seule la mobilisation leur permet aujourd'hui d'essayer d'obtenir la négociation pour avoir une convention collective digne de ce nom.
Un statut détricoté, cassé, comme vous le dites, Pascal Pavageau, dans une loi promulguée, celle portant réforme ferroviaire, qui est donc actée à travers la promulgation de cette loi. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer quel serait, selon vous, pour vous, le statut idéal, celui qu'il faudrait refondre?
À l'époque, vous en souvenez peut-être, enfin on s'en souvient tous, sur l'énergie, sur l'électricité, il y a eu la même ouverture à la concurrence. Il y avait le statut historique de l'opérateur historique EDF qui a été étendu, qui a été élargi. Aujourd'hui, ça donne le statut des industries électriques et gazières. Moi, je suis élu depuis le 27 avril. Le lendemain, je demande au gouvernement, au nom de Force Ouvrière et de ma fédération FO des Cheminots, un moratoire d'un mois. Un mois pour négocier. Et pour négocier quoi? Pour négocier l'extension du statut de la SNCF à l'ensemble des opérateurs de demain du fait de l'ouverture à la concurrence. En gros, ce qui a été fait il y a une dizaine d'années pour l'énergie, ce qui est aujourd'hui imposé dans le transport par rail, SNCF, d'élargir le statut. Ce qui permettait d'avoir une négociation au bon moment, sans pression du gouvernement, avec le rapport de force équilibré entre patronat et syndicat, parce que dans ce cas-là, il y avait toujours le statut qui était maintenu, et l'idée était simplement d'élargir le statut. Quel est le statut idéal? Le statut de la SNCF. Il suffisait de l'étendre à l'ensemble des opérateurs, et dans ce cas-là, les 127 000 personnes étaient toujours mécontentes de l'ouverture à la concurrence, et nous considérons que c'est toujours une erreur, mais au moins conserver leur cadre d'emploi.
Alors pourquoi ce moratoire vous a été refusé?
Parce que c'est idéologique. Lorsque nous l'avons demandé au Premier ministre, on a bien senti une absence de capacité d'argumentaire pour pouvoir nous expliquer, pour répondre à votre question. Moi, je peux pas répondre à la question à la place ni du chef de l'État, ni du Premier ministre, mais du coup, j'affirme que nous sommes dans une phase idéologique de casse des droits collectifs et on est en train d'avoir le même débat sur le statut des IEG. Et on est en train d'avoir le même débat sur la fusion des conventions collectives. Et on est en train d'avoir le même débat sur le statut de la fonction publique, le statut de 5,4 millions d'hommes et de femmes, ces engagés ordinaires et nos héros du quotidien.
Mais Pascal Pavageau, votre demande à vous de moratoire, elle est pas idéologique? idéologique aussi ?
Alors, si la négociation est idéologique, alors je suis idéologique. J'ai aucun problème là-dessus. Alors là, vraiment, j'ai aucun problème là-dessus. Si le fait de vouloir négocier des droits nouveaux, protéger un peu plus, protéger un peu mieux, obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de rémunération pour les uns et les autres, à la table de négociation avec le patronat ou à la table de concertation avec l'État, si ça c'est être idéologique, alors nous depuis 70 ans on est idéologique parce qu'on prône chaque fois qu'on le peut la négociation en matière de progrès social.
Un mot de la méthode, la grève à la SNCF pour l'instant n'est donc pas terminée. Pourquoi continuer, vous l'avez évoqué, pour essayer de garder la pression malgré la promulgation de la loi, pour se défendre. Qu'est-ce que vous espérez tous ensemble, en dehors même de vos prises de position récentes, de vos appels à la grève, à continuer ou pas, qu'est-ce que vous espérez obtenir après 3 mois d'un dialogue de sourds sur cette réforme de la SNCF et au-delà sur toutes celles que vous avez citées? Quel serait le bon dialogue social, le bon mode de discussion à mettre en place aujourd'hui?
Il y a 2 niveaux. Le premier, c'est qu'on est très content, on a retrouvé un président du MEDEF. Depuis maintenant 48 heures, parce que ça faisait 1 an que globalement on n'avait plus de signe de vie de l'ex-président du MEDEF. Donc on est content, il y a enfin quelqu'un. Donc maintenant on est 8, les 3 organisations patronales ont un président et les 5 organisations syndicales ont un secrétaire général ou un président. Donc la première des choses que nous demandons, à Monsieur Roux-de-Bézieux notamment, puisque c'est le dernier de la bande, c'est que nous puissions bâtir tous les 8 un agenda social de négociations interprofessionnelles. Il y a plein de sujets, le télétravail, les travailleurs des plateformes, etc., etc. Il y a plein de sujets qui nécessitent aujourd'hui des réponses concrètes des interlocuteurs sociaux, donc qui nécessitent que dès le mois de septembre, nous soyons en capacité d'avoir un agenda social pour négocier. La réponse la semaine prochaine, puisque les médias le savent, la semaine prochaine nous voyons tous les 8, ce qui d'ailleurs est une rencontre assez rarissime, pour ne pas dire historique, où les cinq secrétaires généraux syndicaux et les 3 présidents patronaux seront tous ensemble autour de la table, justement pour discuter, je l'espère, l'aboutissement d'un agenda social de négociation qui pourrait démarrer au mois de septembre. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est avec le gouvernement, qui empile réforme sur réforme dans tous les sens, et d'ailleurs qui visiblement ne s'en sort plus, puisqu'il était obligé de reculer son annonce plan pauvreté, il est obligé de reculer sur le prélèvement à la source sur un certain nombre de sujets, parce que c'est
donc
bien...
On
ne
peut pas lui reprocher d'aller d'un côté trop vite, notamment sur la SNCF, pas de moratoire, pas de discussion, etc., et d'un autre côté lui dire
au gouvernement
aujourd'hui...
Il descend à 80 km/h la vitesse sur les routes, j'aimerais bien qu'il descende la vitesse de l'ensemble des contre-réformes.
Oui, d'accord, on pourrait respirer, c'est pas si mal de retarder après l'été et laisser peut-être le temps de discuter.
Il a 50 fers au feu dans tous les sens, sauf qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces fers au feu sont bâclés. C'est objectivement très mal fait, parce qu'effectivement, ils n'ont pas le temps d'y travailler, et surtout, ils n'ont pas consulté. Ils n'ont pas concerté. C'est comme le projet de loi Pacte. Donc, vous parlez de méthode. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est « je marche seul ». Où je pense donc tu suis en matière de réforme, donc pas de consultation réelle.
Donc, soyez simple.
Donc, ce qu'on veut,
essayons d'être
c'est
de bonne foi, peut-être
fonctionne.
Saluer ce retard des réformes et se dire que d'ici là, l'été passant, il va peut-être y avoir discussion.
Écoutez, sur le plan pauvreté, j'espère que la communication n'est pas les pauvres après le mondial, parce que si c'est ça, c'est catastrophique, mais je n'ose pas y croire. Et effectivement, je vous rejoins, si le fait de se donner 2 mois supplémentaires sur le plan pauvreté nous permet de discuter, concerter, négocier en gros avec l'État sur ce sujet majeur, ça serait pas du luxe, puisqu'en l'occurrence pour l'instant, il n'y a pas eu de contact. Vous imaginez, 14% de la population aujourd'hui est pauvre dans la 5e puissance économique du monde, et la seule chose que l'on nous dit en face, c'est qu'il y aurait un pognon de dingue pour aider ces 14% de la population, un pognon de dingue, 26 milliards, 1% de la richesse produite, du PIB, à destination de 14% d'entre nous qui sont aujourd'hui dans une logique de trappe à pauvreté. Moi, je crois qu'on peut passer de 1% à 5% sans problème, parce que l'objectif, au final, c'est fait que demain, on passe de 14% à 0%. Alors si retirer ou retarder l'annonce du plan pauvreté n'est pas, heureusement, pour le mondial, mais et pour discuter et concerter, alors effectivement, dans ce cas-là, sur la méthode, ce sera une excellente chose et ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas vu.
Un pognon de dingue des propos du président repris et détournés par le quotidien L'Humanité ce matin. Le pognon de dingue des grandes fortunes, le quotidien nous rappelle qu'en 10 ans, le patrimoine des 500 plus riches familles a été multiplié par 2 et représente aujourd'hui 30% du PIB. Des plus riches toujours plus riches, des plus pauvres toujours plus pauvres.
C'est ça.
On en est là, Pascal Pavageau. Est-ce que l'État peut faire quelque chose dans la réduction des inégalités ?
Eh bien, premier élément que nous demandons, une grande loi contre les inégalités. Et là, je dirais, l'article premier de cette loi, c'est la question de la répartition de la richesse produite. Aujourd'hui, sur 100 euros de profit de nos grandes entreprises du CAC 40, 67 sont distribués aux actionnaires. Et seulement 6 euros reviennent aux salariés qui ont produit ces 100 euros de profit, parce que c'est bien eux qui bossent, en l'occurrence. Donc on a un problème majeur d'absence de répartition de la richesse produite. Donc ça, une loi contre les inégalités, voilà quelque chose qui serait positif, voilà quelque chose qui aujourd'hui est absolument nécessaire, avec 14% d'entre nous qui sommes déclarés pauvres aujourd'hui en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on attend, c'est une inversion totale de la ligne générale, de la vision aujourd'hui qui est menée. Nous avons une politique avec un P majuscule qui est menée uniquement pour celles et ceux qui ont eu soit la chance, soit la capacité, soit les moyens de réussir seuls. Donc en gros des start-upers, des je sais pas quoi, qui ont réussi tout seuls à un moment donné parce qu'ils ont eu de la chance ou parce qu'ils ont correctement hérité et qu'ils ont eu un certain nombre de moyens ou qu'ils ont eu une géniale idée dans leur tête et qu'ils ont eu la capacité de la mettre en place. Mais ça c'est quoi ? C'est 10%, c'est 10% grand maximum de la population, les 90 autres, ils ont besoin du système collectif, ils ont besoin d'emploi, ils n'ont pas besoin de chercher des clients, ils ont besoin d'un emploi, ils ont besoin d'un contrat de travail en CDI ou par statut, ils ont besoin d'une convention collective, ils ont besoin de la sécurité sociale, collective. Ils ont besoin de la solidarité, des valeurs, d'égalité républicaine. Ils ont besoin de cet héritage que nous avons façonné, le monde syndical notamment, qui est qu'aujourd'hui nous avons un record du monde en France. 93% des travailleurs de ce pays sont couverts par une convention collective ou par un statut. On ne peut pas mener une politique contre ces 93% au bénéfice de 10% qui ont déjà tout et qui ont réussi tout seul.
Vous avez assurément façonné cet héritage, vous, les corps intermédiaires, vous, les partenaires sociaux.
Oui, ou les contrepoids. Je pense que le terme... Je pense que dans notre démocratie, on ne va pas faire un débat sémantique, mais je pense que les interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire organisations syndicales et patronales, c'est plus une logique de contrepoids démocratique, y compris sur un plan positif, c'est-à-dire en faisant des propositions. Il n'y a pas de sécu sans organisation. Organisation syndicale et en particulier sans la nôtre. Il y a pas de statut général de la fonction publique, il n'y a pas de convention collective parce qu'il n'y a pas de négociation sans les organisations syndicales. Et donc de ce point de vue-là, nous avons à chaque fois proposé un certain nombre de choses parce qu'avant tout faire du syndicalisme, c'est être constructif. Oui, cet héritage, c'est une logique de démocratie sociale où par la négociation, par la proposition, nous mettons sur la table, face aux parlementaires, face aux exécutifs, face au grand public via la presse, des idées. Des suggestions et des propositions. Après, chacun son rôle. On est une organisation syndicale, rien qu'une organisation syndicale, charge aux parlementaires de légiférer, charge aux exécutifs d'avoir des grandes politiques et des grandes orientations selon la majorité qui est la leur.
Et les syndicats ont de l'avenir pour vous aujourd'hui ?
Ah ben, j'en suis absolument persuadé, sinon je ne serais pas là. Mais quand vous militez, vous êtes optimiste, naturellement. Et de toute façon, cette logique de je marche seul du président de la République ou de je pense donc tu suis, cette logique de vous avez eu le candidat 2.0, vous avez le président 1. C'est tout, ça durera pas longtemps. Ça durera pas longtemps parce que l'individualisation et la case des droits collectifs et le chacun pour soi, il perdra face à 300 ans de République et à plus de 120 ans de démocratie sociale.
Sauf que la donne a quand même changé, que beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la marge de manœuvre de l'État et des exécutifs dans un contexte de mondialisation. Vous n'êtes pas de ceux qui clamaient l'impuissance des États aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui, sur le plan européen, pour élargir, je dirais, sur le premier cercle par rapport à la France, ce qu'on pourrait voir alors que les États-Unis et les Chinois rentrent en guerre économique, profitons-en pour reconstruire une vraie Europe sociale et aussi une vraie Europe, on va dire, du partenariat, de la collaboration inter-État. Il y a eu, sur le plan économique, un succès majeur au niveau de l'Europe. C'est Airbus, c'est EADS, c'est de la collaboration au sens noble du terme, économique comme social, de différents États, pour faire en sorte que l'Europe se hisse au niveau d'autres géants économiques, comme effectivement la Chine, le Japon, les États-Unis, par exemple en matière de construction d'avions. Bon, eh ben, faisons un EADS du photovoltaïque. Nous n'arrêtons pas en matière d'énergie, par exemple renouvelable, nous n'arrêtons pas, nous, parce que nous sommes constructifs à Force Ouvrière, de faire des propositions dans ce sens-là, de manière à ce que la collaboration inter-État en Europe puisse avoir du concret au bénéfice du social. Ça fait des années qu'on demande une filière de déconstruction navale, de déconstruction propre navale, qui permettrait sur le plan mondial de créer des normes de déconstruction propre des bateaux, ce qui n'existe aujourd'hui nulle part au monde. Donc on a besoin... et pourquoi pas les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, qui pourraient là-dessus s'unir dans le cadre d'un grand, grand programme, de manière à ce que l'Europe, là aussi, soit fer de lance. Ça aurait des avantages sur le plan environnemental, ça aurait des avantages sur le plan économique, et ça serait créateur d'emplois. Donc on revienne... Donc,
dans la rue comme sur la scène internationale, pour vous, Pascal Pajot, l'Union fait la force, et la France a des atouts dans...
Elle a d'abord un atout avec l'Union européenne, mais que l'Union européenne redevienne une Union européenne... sociale, que l'Europe devienne une Europe sociale.
Quels sont nos atouts principaux, Pascal Pajot ? Oui, vous venez de le dire, on entre dans une période de guerre commerciale assez féroce.
Mais on a un atout exceptionnel, c'est la capacité et de production, mais aussi l'efficience de nos modes de production. On le voit bien, on nous bassine à longueur d'année sur le fait que la France serait plus attractive. Et tous les rapports montrent en permanence que ce n'est pas le sujet, qu'il y a de l'investissement en France et que des entreprises font régulièrement le choix de venir finalement s'implanter en France, malgré soi-disant un coût du travail rédhibitoire, hors du commun, tout simplement parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a de la qualification, parce que aujourd'hui il y a des conventions collectives, parce qu'il y a des organisations syndicales qui sont exigeantes et qui proposent un certain nombre de choses et qui hissent en permanence le niveau de production des salariés. Mais pour ça, maintenant, il faut qu'il y ait un retour juste en matière de richesse produite, et que finalement, on arrête avec cette logique de salarié bashing, comme le montrent les politiques ou certains au niveau du patronat, mais qu'au contraire, on reconnaisse ce qui est, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, comme on a certainement les meilleurs fonctionnaires de toute l'histoire de l'humanité et interplanétaire, on a aujourd'hui des salariés qui, sur le plan de la concurrence économique, font de notre pays l'un des pays les plus compétitifs.
Cocorico.
C'est pas une question de cocorico, c'est une question de réalité, de réalisme. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut ni faire du protectionnisme, ni écraser les autres. Je dis qu'à un moment donné, il faut être en capacité, de façon tripartite, l'État, le patronat, mais les organisations syndicales, et elles ne demandent que ça, de reconnaître la capacité de production qu'ont nos travailleurs, nos salariés en France. Mais pour ça, faut leur maintenir leur cadre collectif, faut les reconnaître pour ce qu'ils sont, et à un moment donné, faut redistribuer ce qu'ils produisent, c'est-à-dire cette richesse qui fait de nous encore et toujours la cinquième puissance économique du monde. Et sur la base de cette richesse, il faut la redistribuer, tendre la main, tendre la corde à ceux qui en ont plus besoin, c'est-à-dire les 14% qui, pour l'instant, malheureusement, sont sous le seuil de pauvreté.
Voilà, pour que la France revienne parmi les premiers de cordée, si j'ai bien compris votre raisonnement. Quel est votre état d'esprit à vous ? Quel est le FO façon Pascal Pajot ? Est-ce que vous êtes en guerre, pour reprendre le titre du très beau film de Stéphane Brisé sorti cette année ?
Non, c'est pas un vocabulaire syndical, ni la guerre ni la violence. J'ai pas eu l'occasion de voir encore ce film, mais je compte aller le voir, mais puisque tout le monde m'en parle de façon très positive, mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Le discours syndical, il est d'abord constructif. Quand vous vous engagez à Force Ouvrière, il n'y a pas eu de mutation génétique depuis 70 ans. D'abord, c'est l'indépendance par rapport notamment aux partis politiques ou à tout type de courant de pensée, philosophique ou autre, etc. Donc l'indépendance, mais aussi être constructif. Proposer des choses, mettre sur la table, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous vous engagez à Force Ouvrière, quand cet engagement syndical, c'est d'abord pour défendre les autres, c'est pour défendre vos collègues de travail, c'est pour obtenir des droits nouveaux, c'est pour permettre de progresser sur un plan social. Et donc, quand c'est bien, on le dit. Quand on trouve que l'accord est correct, on le signe, et on signe 91% des 36 600 accords d'entreprise chaque année. Donc on aimerait bien signer 100%, parce que ça voudrait dire que les 9% restants sont bien meilleurs que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc on s'engage pour essayer d'obtenir des droits nouveaux. Mais quand c'est pas bon, on le dit aussi. Et dans ces cas-là, on le conteste. Et aujourd'hui, sur le plan gouvernemental, la ligne qui est menée, comme je le disais tout à l'heure, d'individualisation à chacun pour soi, malheureusement, elle n'est vraiment pas bonne.
Finalement, sur la méthode, vous êtes presque sur la même ligne que le nouveau patron des patrons, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Ce qui est vrai, c'est qu'on a un gouvernement très différent du précédent, qui est plutôt, on va dire, qui comprend l'entreprise, qui sait que l'entreprise fait partie de la création de richesses, mais tout n'est pas parfait. Là, il faut qu'on change, c'est qu'on était dans le MEDEF de combat, parce qu'on avait en face de nous un moment extrêmement anti-entreprise. Il faut qu'on soit dans un MEDEF de proposition, un MEDEF qui soit capable d'anticiper, qui justement, face à ces mutations, propose des solutions.
Voilà, et quand vous verrez le film de Stéphane Brisé, vous verrez effectivement deux lignes s'affronter. D'un côté, une ligne ou un mode d'action, une philosophie de l'action plus radicale, plus jusqu'au boutiste, incarnée par Vincent Lindon et ses collègues. De l'autre, une ligne plus réformiste, plus dans la concession, la méthode des petits pas, hein, on peut le dire comme ça. Alors on verra ce qui va s'appliquer aujourd'hui dans les négociations futures. En un mot, est-ce que vous pensez que le lien entre les partenaires sociaux et l'État est abîmé, qu'il faut aujourd'hui, tous ensemble, réparer?
La première année est objectivement un échec sur la méthode. Maintenant, ça fait qu'une année. Donc c'est rattrapable. Et c'est rattrapable très rapidement. Pour ça, il faut que le gouvernement et le chef de l'État donnent des signes rapides, très rapides. Il peut encore le faire durant l'été, en tout cas durant ce début d'été et au plus tard début septembre. Et sur le plan patronal, j'aimerais pouvoir tenir les mêmes propos que le nouveau président du MEDEF, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir dire que le gouvernement entend et comprend les salariés. Pour l'instant, il comprend et il entend les entreprises. J'ai pas l'impression qu'il ait compris et entendu les travailleurs.
Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, vous restez avec nous. Dans un quart d'heure, nous rejoindra le médecin Anne Gervais. On parlera de la réforme des hôpitaux ensemble.